La quatrième question porte sur l'Europe et la mondialisation. L'Europe est confrontée à des défis mondiaux, écologiques, climatiques, énergétiques, migratoires et de sécurité. Comment doit-elle s'organiser pour préparer son avenir? Quels sont pour vous les enjeux prioritaires et quelles sont vos propositions? La candidate qui va s'exprimer la première, c'est Madame Corinne Lepage.
Alors, je dirais que tout ce que vous venez de citer, monsieur, c'est lié. Tous ces enjeux sont totalement liés. Et comment nous pouvons nous y préparer? En comprenant les liens qu'il y a entre tous ces enjeux. Au-delà de tous, je pense que la question climatique, sur le long terme, est la plus importante. Elle est la plus importante parce qu'elle nous menace réellement notre survie, pas à la planète, mais à nous, les humains, à la fin de ce 21e siècle, et qu'en tout cas, elle porte en elle des modifications, des transformations géostratégiques absolument gigantesques. Par voie de conséquence, que l'on s'intéresse à la question de sécurité, au mouvement des populations, aux migrations, à l'alimentation, à l'énergie, de toute façon, c'est ce sujet-là qui est prioritaire. Cela veut dire qu'une des priorités pour l'Europe, c'est de peser le maximum dans la négociation qui va avoir lieu à Copenhague à la fin de l'année, notamment pour faire en sorte que les États-Unis, qui certes ont changé d'avis par rapport à l'équipe Bush, n'en restent pas à la proposition modeste qui est celle qui est faite actuellement et qui est très en deçà de ce qu'il faut. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la place de l'Europe dans le monde. C'est un véritable sujet. Derrière la crise économique que nous vivons, c'est aussi une crise d'équilibre du monde. Et l'enjeu pour l'Europe, c'est de s'organiser de manière à pouvoir peser sur les grands choix qui sont faits. Si nous voulons, et c'est ce que nous souhaitons, une Europe qui ne soit plus, et un monde qui ne soit plus organisé autour d'un capitalisme financier et d'une hyperlibéralisation. Cela veut dire qu'il faut pouvoir peser au niveau de la gouvernance mondiale pour aller dans le sens du contrepartie à l'OMC au niveau de l'environnement et au niveau du social. Cela veut dire qu'il faut effectivement pousser beaucoup plus loin ce qui a été esquissé modestement au G20 en matière de gouvernance financière. Cela veut donc dire qu'il faut aller vers la construction, pardonnez-moi Madame Le Pen, ça ne vous plaira pas, mais je le dirai quand même, d'une véritable Europe politique qui puisse effectivement nous défendre tous. Parce que croire un instant dans le monde tel qu'il est en train de s'organiser avec les géants économiques et politiques que nous avons, c'est-à-dire les BRICS, et notamment la Chine et l'Inde, de penser que nous, puissance moyenne, malgré notre tradition historique, malgré tout ce que nous portons, nous sommes capables d'influer sur le monde entier, c'est une hérésie totale et cela nous conduit directement à la catastrophe. Voilà, donc tout ceci doit nous conduire véritablement à une Europe politique.
Merci Madame Lepage. Monsieur Jacquet Hénin.
Alors, sur la question, l'Europe d'abord, mais pas seulement, des conditions de développement respectueuses des hommes et de l'environnement, l'Europe comme moteur de développement et de coopération au niveau mondial, une Europe ouverte et respectueuse des diversités. L'Europe d'abord, parce qu'avant d'aller donner des leçons aux autres, il faut peut-être qu'on s'organise sur ce territoire pour construire ce qu'on a appelé tout à l'heure de nos voeux, une Europe sociale, une Europe qui permette à chacune et à chacun des citoyens de l'Union européenne d'avoir les droits les plus élevés sur le territoire européen et d'avoir un type de développement qui permette d'être regardé à l'extérieur. Mais dans le même temps où nous devons construire cette Europe du bonheur en quelque sorte, nous devons aussi participer à rattraper le tort que nous avons pu faire ailleurs dans le monde et nous devons participer au développement d'un certain nombre de pays qui ont des besoins et pour lesquels les gens partent de chez eux tout simplement parce qu'ils n'ont pas de quoi nourrir tout simplement leur famille. Des conditions de développement respectueuses des hommes et de l'environnement. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de produire dans le gigantisme pour tout détruire et que derrière, il reste à la collectivité le soin d'assumer la responsabilité. Vous voulez que je vous parle de Metal Europe dans la région avec la production qui a été menée pendant des années et où il a fallu laisser derrière la note aux collectivités et aux populations pour assumer la dépollution. L'Europe comme moteur de développement, Si nous allons de l'avant dans notre développement, nous pouvons être perçus à l'extérieur dans le monde comme un modèle à regarder, comme l'était autrefois la France, ce pays des droits de l'homme, ce pays qui avait une image, ce pays qui était respecté. À partir de là, nous pouvons aussi initier des coopérations européennes et mondiales. Chaque fois que les hommes se sont mis ensemble pour travailler à la satisfaction des besoins des hommes, ils ont avancé en matière de technique médicale, en matière de recherche pharmaceutique, en matière agricole. À chaque fois, nous avons progressé pour le bien de l'humanité. Enfin, je terminerai sur une Europe ouverte et respectueuse des diversités. Écoutez, si l'on croit qu'on peut transformer l'Europe en une énorme forteresse entourée de barbelés qui empêcheront les populations faibles de pouvoir entrer, c'est pas possible. Parce que vous qui êtes dans la salle et moi-même, si nous n'avions rien pour faire vivre nos familles, nous serions les premiers à partir pour chercher ailleurs un peu de bonheur. À partir de là... Moi, je l'ai subi comme maire de Calais. Ça a probablement été une partie de ma défaite. Mais à partir de là, d'être comme l'État, ce que vous représentez, et vous êtes exprimé sur le sujet, monsieur Riquet, ça m'a profondément choqué parce que vous n'avez jamais parlé de ça auparavant. Mais quand l'État considérera qu'installer des douches et des toilettes à Calais, c'est créer un point de fixation pour que des hommes et des femmes fassent des milliers de kilomètres pour venir chier ou prendre une douche à Calais, ce sera toujours débile et ça ne fera pas avancer les positions de la France.
Merci, monsieur Hénin. Pardon. Monsieur Pargneaux.
Tout s'accélère, on le voit, et les défis, notamment en matière climatique, mais aussi en matière de sécurité et en matière migratoire, sont vraisemblablement les grandes priorités, au-delà de la vie économique et sociale, de l'Union européenne. Oui, il faut plus d'Europe, de ce fait. Et l'Europe doit nous aider à construire cette société par rapport à ces défis, mais aussi pour nous protéger. C'est aussi un mode de développement, mais aussi un mode de vie différent qu'il nous faut construire. Donc c'est ainsi que l'Union européenne, les 492 millions d'Européens que nous sommes, doivent permettre d'avoir une institution qui donne le là et qui lui donne la perspective, la direction. Et là, donc la première grande priorité, je crois, c'est lié à une politique énergétique commune, car il faut aller plus loin que ce que il a été décidé par l'Union européenne. Ce n'est pas 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, mais il faut que ce soit moins de 30%, comme nous l'avions proposé, nous les socialistes européens, et on regrette que d'autres à droite, mais aussi au centre de l'échiquier, on ne nous ait pas suivis dans cette proposition. Il faut être innovant, il faut être pugnace pour permettre de développer cette politique liée à cette lutte contre la pollution. Et puis, c'est la politique en matière de sécurité, et sécurité au pluriel. Sécurité par rapport à une politique extérieure que l'Union européenne doit développer, et il est nécessaire de renforcer le rôle du haut représentant de l'Union pour la politique extérieure de sécurité commune pour répondre aux défis de sécurité tels que on le voit, et comme je disais tout à l'heure, tout s'accélère. Mais c'est vrai aussi en matière de sécurité alimentaire. La pandémie qui est là en matière de santé, là aussi l'Europe doit être présente pour sécuriser l'ensemble de ces Européens que nous sommes. Et enfin, troisième priorité qu'il convient de mettre en œuvre, et là je ne reprends pas les propos puisque je suis à 100% d'accord avec Hélène Flautre tout à l'heure, il faut un passeport de l'immigration européenne, un passeport commun qui permette à celles et ceux qui sont là de pouvoir permettre de développer dans la sécurité, mais aussi dans la dignité. Et là aussi, la directive retour qui a vu une adoption de la part du PPE, mais aussi malheureusement une abstention du groupe libéral où se trouve le MoDem, cette directive de la honte, comme je disais tout à l'heure, nous reviendrons dessus si nous sommes demain majoritaires à gauche au Parlement européen, puisque nous sommes, nous, pour une politique de l'immigration non pas choisie, mais une politique d'immigration légale, basée sur des règles justes. Là encore, Jackie Hénin le disait, c'est important que nous ayons une justice. Merci. Par rapport à cette politique qui est
Merci,
un des défis mondiaux. de ces prochaines années, l'Europe doit être partie prenante, notamment en ce domaine.
Merci, Monsieur Pargneau, de votre intervention. Monsieur Frédéric News.
Je crois que, de toute façon, à l'inverse de ce que disait Alain Minc, il n'y a pas de mondialisation heureuse. Donc, je crois que les intérêts sont un peu trop divergents à l'échelle du monde et à l'échelle notamment de ce qui se passe au sein de l'Union européenne pour ne pas avoir l'illusion de penser que parce que l'Europe ou parce qu'on voudra que l'Europe parle d'une seule voix, on réglera les questions au niveau mondial. Au niveau mondial, certes, un certain nombre de sujets doivent être traités, c'est une évidence. Réchauffement climatique ou d'autres questions, c'est une évidence. Des instances existent déjà autour de l'ONU, autour d'autres instances qui ont été créées. Essayons de les faire fonctionner avec cela. Et c'est pas parce que l'Union européenne parlera d'une même voix que ça fonctionnera. On le voit bien déjà dans le fonctionnement actuel de l'Europe. À 15, ça marchait pas terrible. À 27, c'est un petit peu le bazar. On n'arrive déjà pas à se mettre d'accord entre nous. On va vouloir aller expliquer à tout le monde ce qu'il faut faire. On n'y arrivera pas de toute façon comme cela. Je vous rappelle quand même que l'Europe devrait parler, à écouter certains de nos interlocuteurs ici ce soir, devrait parler d'une même voix. Dans ce cas-là, sur l'Irak, on aurait parlé sur quelle voix il y a quelques années ? Nous, la France, grâce... Alors vous allez me dire, c'est franchouillard, c'est cocardier, c'est ce que vous voulez. N'empêche que la France, ce jour-là, elle a su faire entendre sa voix traditionnelle sur cette question-là, et ça nous a permis de ne pas aller dans ce bourbier. Alors, ce jour-là, si on avait parlé d'une seule voix, ça aurait été quelle voix ? On était minoritaire au niveau de l'Union européenne. Voilà la question. Après, parler d'une même voix au niveau européen, sur toutes ces questions-là, on n'y arrivera pas. Regardez les discussions au sein de l'OMC, comment elles se passent. Quand vous avez les décisions que veulent porter les Anglais, notamment, on se rappelle de l'épisode Mendelssohn au niveau de l'OMC, ça n'était pas du tout qui était prêt à vendre l'agriculture française aux Américains dans le cadre de l'OMC. Parce que culturellement, son pays est plus près des Américains que de l'Union européenne, dont il est membre quand même. Où va-t-on aller ? On n'y arrivera pas. Donc je crois, respectons les différences au niveau de notre Union européenne, ça sera déjà pas mal. Et après, au niveau international, il y a des structures qui existent, l'ONU et quelques autres. On n'y siège pas en représentant de grandes régions. On y représente son pays. Et je crois que là, il y a des solutions bilatérales, multilatérales qui peuvent exister. Hein, et c'est la voie qu'il faut suivre, à mon avis. Quant à d'autres questions, je vous rappelle que cette diversité, elle est déjà difficile au niveau pour essayer de trouver une seule voie. Il faudrait aussi que vous trouviez aussi, dans ce cas-là, une seule voie au niveau européen ou au moins de la contrée, puisque je vous rappelle que sur les services publics, j'ai noté que vous vouliez les défendre. Hein, mais il fallait le faire aussi avant, quand c'était passé à la décision. Et je vous rappelle le sommet européen de Barcelone, où justement, vous vous êtes tous bien entendus les uns entre les autres, justement pour le sacrifier, ce service public. Alors c'est bien beau de nous dire maintenant qu'on n'est pas d'accord avec les autres, on est différents, on va régler les problèmes. Vous pouviez le faire, vous dirigez l'Europe en alternance, vous présidez le Parlement européen en alternance depuis 30 ans, voilà où on en est.
Merci, monsieur Frédéric Nihous. Madame Marine Le Pen.
Oui, madame Lepage, je vous ai entendu dire tout à l'heure, mais comment nous, petits pays, modestes, allons-nous influencer le monde ? Avons-nous envie d'influencer le monde, madame Lepage ? Je vais vous dire une chose, la France a influencé le monde plus que probablement n'importe quelle autre nation, lorsqu'elle était une nation. Et son intégration dans l'Union européenne telle qu'elle est construite aujourd'hui est en train de faire disparaître cette petite musique qui a apporté à la moitié du monde notre modèle politique, notre modèle institutionnel, notre code pénal et notre code civil, quand nous n'étions, comme vous dites, qu'une toute petite nation et pourtant une si grande nation. Voilà. Parce que ce sont les nations qui apportent, parce que ce sont les nations qui préservent et ce sont les nations qui agissent. Il y a eu une crise économique. Quelle a été la réponse de l'Union européenne ? Zéro. Elle a autorisé les États-nations à mettre en place des plans économiques, chacun le sien. Aucune réponse commune, parce que ça n'est pas possible, parce que évidemment les intérêts sont divergents. On a parlé de la réduction des gaz à effet de serre, mais qu'a fait l'Allemagne, madame Lepage ? L'Allemagne, elle a immédiatement négocié des conditions. Elle a le droit d'émettre des gaz à effet de serre, parce que pour protéger son industrie, elle a dit, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi, je veux des dérogations, et elle les a obtenues. Il n'y a que la France qui, jamais dans ces structures-là, ne défend les intérêts de son peuple. Parlons d'écologie.
Moi, j'entends beaucoup de gens défendre la mondialisation en disant « Mais la mondialisation, c'est un fait. On ne peut pas aller contre la mondialisation. » Mais le mondialisme, cette espèce d'utopie totalitaire qui veut nous pousser justement dans cette mondialisation. Mais c'est l'inverse de l'écologie, Madame Lepage. L'écologie, la vraie, c'est produire au plus près et retraiter sur place. C'est ça la véritable écologie. Et le modèle mondialiste qui consiste à aller produire à 20 000 km, à aller consommer 25 000 km plus loin et à aller retraiter les déchets dans les pays pauvres qui ne peuvent pas dire non parce que c'est un moyen de survie en Afrique ou en Inde, eh bien ça c'est exactement l'inverse de l'écologie. Les mondialistes considèrent que l'homme est jetable et ils considèrent aussi que le monde est jetable. Et c'est contre cela que nous luttons et je crois que contrairement à ce que vous dites, lorsque les nations en coopération entre elles, il ne s'agit pas de s'enfermer avec des forteresses, ça c'est pour les bobos ce type d'argument. Il s'agit, mais oui, mais c'est la vérité, il s'agit de se protéger de manière raisonnable, il s'agit d'être en coopération les uns avec les autres, avec des nations. Airbus, ce n'est pas l'Union européenne. Airbus, c'est une coopération entre les nations. Et ça, je suis désolé de dire que des milliers d'années, hein, ont démontré que ça marche. L'Union européenne, en 30 ans, a réussi à démontrer que manifestement, ces super empires ne fonctionnent pas.
Merci Madame Le Pen. Monsieur Dominique Riquet.
Alors depuis 60 ans, l'Europe nous a donné la paix. Hein. C'est-à-dire, l'Europe des nations nous a donné 3 guerres en 100 ans, je vous le rappelle quand même. Donc depuis 60 ans, l'Europe nous a donné la paix, elle porte des valeurs. Et qu'est-ce qu'on lui demande maintenant dans ce monde qui est mondialisé, que ça nous plaise ou non? On lui demande, c'est de porter ses valeurs et de nous protéger. Elle doit nous protéger vis-à-vis de l'insécurité extérieure. Je pense que la politique européenne de défense, c'est un élément très important pour nous et pour nos enfants. Elle doit nous protéger à l'intérieur. Et là, bon, évidemment, on ne va pas être d'accord tout le temps. Nous sommes, nous, pour une politique de l'immigration et de l'asile qui soit conforme aux valeurs européennes, mais qui quand même permette de réguler des échanges, parce qu'on ne peut pas s'ouvrir absolument, totalement déstabilisant à l'intégralité de l'immigration du monde. Donc nous sommes pour des frontières limitées. Je crois que les frontières de l'Europe doivent s'arrêter là où elles sont mises aujourd'hui. J'ai pris très clairement position pour penser qu'avec tout le bien qu'on peut penser de la Turquie, elle ne doit pas rentrer en Europe. Et que nous devons intégrer ceux qui y sont maintenant, ceux qui prennent du temps. Les délocalisations internes, c'est un problème de faire remonter ces gens-là à notre niveau. Nous devons demander à l'Europe de nous protéger sur le plan économique, de protéger nos travailleurs, nos emplois, d'augmenter le niveau de vie de ceux qui en ont le plus besoin, et de le faire par le biais de la prospérité et par le biais du social. Nous devons intervenir fortement face aux courants libéraux comme face aux courants réglementés. Ce que je vais vous dire, nous sommes menacés effectivement par le libéralisme financier débridé des anglo-saxons, mais nous sommes menacés également par l'économie chinoise qui est d'une autre nature. Nous sommes menacés aussi par les monnaies utilisées comme une arme. Et on peut parler du dollar comme on peut parler de la monnaie chinoise. Donc nous demandons à l'Europe de se développer, de nous protéger en pesant de tout son poids, et ce n'est pas l'État qui est français, ce n'est pas l'État allemand, ce n'est pas l'État irlandais qui est à la bonne mesure, c'est l'Europe de peser pour obtenir effectivement une finance régulée, contrôlée, humaine, un partage bénéfice-travail correct et que notre prospérité augmente. Et puis le dernier défi, le dernier mais non le moindre, c'est le défi environnemental. Et évidemment, on voit bien que soit parce que le modèle de développement des États-Unis n'y prêtait pas attention, soit parce que les pays émergents ont d'autres problèmes, eh bien l'Europe, là encore, est très en pointe sur la défense de l'environnement et du développement durable. Nous devons, à l'échelle de l'Europe, porter ce débat qui est absolument capital pour nous, pour nos enfants. Et non seulement ça n'est pas un handicap, mais c'est probablement une opportunité pour un nouveau développement. Et je rappellerai que l'Europe, elle a beaucoup de champions dans le développement durable, dans le traitement de l'eau, dans le traitement de l'énergie. Elle a des champions mondiaux en grande quantité. Nous avons une très grosse recherche-développement sur le sujet. On a beaucoup de raisons d'espérer aussi à ce propos.
Merci, Monsieur Riquet. Hélène Flautre.
Remondialisation, moi je vois deux points principaux. C'est les politiques de l'Union européenne et leur impact dans le monde. Alors je reprends la politique agricole. Est-ce que nous pouvons continuer à mettre en concurrence 25 millions d'industriels cultivateurs qui ont vraiment des tracteurs, voire plusieurs tracteurs, avec 1 milliard de paysans qui travaillent à la main. Est-ce que nous pouvons continuer à développer une agriculture qui fait concurrence sur les marchés locaux en Afrique, où nous envoyons nos ailes de poulet, mettant du coup à l'amende et surtout à la famine les paysans de ces pays? Donc, d'abord, il faut que toutes nos politiques soient examinées au crible de leur impact dans les pays du monde. Et il y a un sujet principal qui est aujourd'hui un enjeu de discussion tout à fait sérieux, la responsabilité sociale des entreprises. Il faut aujourd'hui que les groupes et les entreprises qui ont leur siège en Europe et développent des activités dans les pays tiers, eh bien, puissent répondre de l'impact social et environnemental de leurs activités, et que les populations locales, qui sont souvent les victimes de ces activités, notamment pour les industries extractives, puissent avoir recours à une juridiction qui permettra à ces groupes de rendre compte de leurs activités. C'est absolument décisif. Je vous donne un chiffre. Areva exploite l'uranium au Niger depuis 40 ans. Le Niger aujourd'hui, c'est le 174e pays du développement humain sur 176, l'avant-dernier. Nous appauvrissons par des politiques les pays du Sud. Donc ça, il faut absolument réformer. La deuxième chose, c'est l'Union européenne, l'Europe comme acteur politique intégré, capable, mais encore faut-il que ces politiques soient exemplaires, capable de négocier avec les autres grandes régions du monde les compromis dont nous avons besoin. On a parlé de Copenhague à la fin 2009. C'est un enjeu et une échéance décisive. Et c'est l'Europe, avec d'autres, avec, je l'espère, les États-Unis et d'autres grandes régions du monde, qui pourront porter haut et fort l'objectif qui n'est pas négociable de réduction drastique des gaz à effet de serre. Nous allons à la catastrophe. Nous avons très peu de temps encore pour réagir. L'enjeu de fin d'année sera décisif. Qui pourra, si ce n'est une Europe politique intégrée, négocier avec d'autres grandes régions du monde le fait que le commerce mondial réponde aux conventions sur le droit du travail, l'Organisation internationale du travail, réponde aux droits de l'environnement et réponde aux conventions sur les droits de l'homme? Eh bien, des enjeux comme ça qui sont décisifs pour la paix, pour le développement et pour le bien-être à l'échelle de la planète et la préservation des ressources, nous avons besoin, pour les faire avancer et les négocier au niveau mondial, parce que c'est bien là que ça se joue, nous avons besoin d'une Europe politique qui affiche une ambition et des objectifs dans ces domaines tout à fait importants.
Merci. Merci, Madame Flautre. Et la parole est à Yann Powels.
Alors sur les questions Europe et mondialisation, les questions qu'on a évoquées depuis tout à l'heure sur les questions européennes, sur l'Union européenne, elles se posent bien sûr au niveau mondial aussi, et c'est intéressant de les voir comme ça. Et c'est intéressant de voir aussi que quand je parlais tout à l'heure de l'Union européenne comme outil des politiques libérales, comme outil créé par les gouvernements pour imposer les politiques libérales, il y en a d'autres, des outils au niveau du monde, et c'est là qu'il faut voir à quel point l'Union européenne se place là-dedans. C'est l'OMC, c'est le FMI, qui sont tous les deux dirigés par des socialistes français. Donc c'est un peu, les promesses. Alors je ne parle même pas évidemment des gens qui représentent le parti de Sarkozy et qui nous disent qu'il faut un peu moins de libéralisme. Là, si ce n'était pas aussi triste, ce serait à hurler de rire. Mais les socialistes qui nous disent l'Europe, demain on vous promet, qui nous promettent une 15e fois que demain elle sera plus sociale, alors qu'on trouve à la tête des deux principales structures de la mondialisation libérale des représentants du Parti Socialiste, c'est très triste aussi. Et ça donne vraiment pas envie de rire. Alors après, les questions centrales au niveau de l'Europe par rapport aux questions de la mondialisation, c'est les deux questions qui ont été évoquées par tout le monde. C'est les questions écologiques et notamment le réchauffement climatique. Et nous, on défend bien sûr une politique de réduction des gaz à effet de serre face au réchauffement climatique. Et ce qui implique de donner, alors je suis entièrement d'accord avec les arguments développés contre le nucléaire, aussi bien en France, enfin aussi bien dans les pays où il y a les centrales sur les questions des déchets, que dans les questions où on va chercher l'uranium et sur comment on appauvrit ces pays. Mais les questions contre le réchauffement climatique, c'est bien sûr de développer, de donner la priorité aux économies d'énergie et au développement des énergies renouvelables avec tous les emplois possibles à créer dans ces domaines. Ça a été évoqué par d'autres personnes, c'est tout à fait vrai, sauf que pour le faire, il faut confier ces questions-là à des structures dont l'intérêt, c'est effectivement de lutter contre le réchauffement climatique, dont le but, c'est effectivement de réduire les gaz à effet de serre, et pas des entreprises dont le but, c'est de réaliser du profit. Si on confie ces tâches-là à Areva, à Total ou à Suez, on n'y arrivera jamais. Et si les gouvernements et l'Union européenne continuent à construire des politiques qui favorisent ces grands groupes privés, ces grandes multinationales, on n'y arrivera jamais. Donc bien sûr qu'il faut un grand service public de l'énergie pour arriver à développer ces questions-là et à mener des politiques réellement écologiques. Il ne s'agit pas de faire des belles promesses en disant demain on repeint le capitalisme en vert. Ça ne marchera pas. Il y a d'autres questions sur les questions écologiques, hein, notamment les questions de l'agriculture paysanne à développer et donc la lutte, parce que là c'est pareil, c'est une lutte à mener, ça veut dire de s'attaquer de front à toute l'industrie, tout l'agro-business. Ça sert à rien de dire demain on va faire une agriculture qui va développer les conditions de vie des paysans, etc., voilà, assurer la survie de la nature, etc., si on ne prend pas les moyens de combattre, de s'attaquer aux entreprises qui tirent leur profit de l'exploitation de la nature et qui, comme merci certaines politiques, je termine sur cette phrase-là, qui, comme sur certaines politiques sociales, mènent la population dans le mur, et on le voit vite et on le voit fort quand c'est une crise, et ben avec les mêmes politiques, il faut s'attaquer aux groupes qui mènent la planète dans le mur.
Merci.